Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on rejoint Martine Biron à New York et avec elle, qui est ministre des Relations internationales, mais aussi ministre de la Condition féminine, on discute à l'occasion du 8 mars du débat entre les féminismes intersectionnels et féminismes universalistes. Puis, on lui demande pourquoi elle a invité la Chine lors de sa récente grande tournée en Asie. Mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et aujourd'hui, on profite d'une nouvelle archive qui a été déposée sur YouTube. C'est une émission qui s'intitule « La bonne question », animée par René Lévesque. C'est une sorte de point de mire, mais lorsqu'il était premier ministre et finalement chef du Parti québécois.
Oui, donc cette archive-là a refait surface dans le cadre du grand ménage du Centre de documentation du Parti québécois.
Ah oui, ça, il faut en parler.
À l'Assemblée nationale, oui.
C'est grâce à Pascal Bérubé, oui, député de Matane-Matapédia.
Pascal Bérubé, qui est devenu un peu l'archiviste de ce centre-là, il s'assure que rien ne soit détruit et il a mis en ligne... deux des cinq émissions que tu nommais bien, La bonne question, qui ont été diffusées entre décembre 77 et avril 78. Donc, c'est des émissions où on entend le premier ministre de l'époque, René Lévesque, qui répond aux questions du public. Comment dire, c'est un peu arrangé que le gars des vues, parce qu'on voit donc René Lévesque qui est assis à son bureau. Il regarde un petit poste de télévision un peu brun. Et puis, les gens lui posent des questions et il répond. Et à l'occasion, il se lève pour aller au tableau avec sa craie, pour expliquer, comme à l'époque de Point de mire.
Point de rupture, ça c'est le documentaire sur 1995.
C'est ça. Oui. D'ailleurs, on peut écouter la petite musique d'ouverture de ces fameuses émissions-là qu'on appelait « La bonne question » qui était diffusée dans ce qui était à TVA, en fait, à l'époque.
Et ça nous replonge en 1978,
oui.
Cette musique.
Un peu disco.
Oui, Dave, ça finit par un gros gong.
Oui, donc c'est un coup de théâtre. Moi, j'aime beaucoup quand même la petite musique. Ça nous replonge dans une autre époque.
Vraiment.
Ces émissions-là étaient diffusées le samedi à 22h, donc au même moment, Radio-Canada, à la soirée du hockey, on avait le Canadien qui était en troisième période. Donc, on peut imaginer
que le
succès de ces émissions-là était relatif. Ça visait à favoriser la communication entre la population et le gouvernement. C'était payé, par contre, par le Parti québécois. Mm-hmm. Ça avait coûté les cinq émissions. 115 000 $ En dollars d'aujourd'hui, ça correspond à 500 000 $ Et comme je disais tout à l'heure, il y avait des questions posées par le public. Et le premier ministre était quand même parfois assez raide dans ses réponses.
Oui.
On peut écouter...
Mais les questions étaient aussi corsées. Là.
Oui, mais ça fait penser en même temps aux questions qu'on entend maintenant au débat des chefs. On fait appel aux citoyens pour qu'ils posent sa propre question.
C'est vrai.
Et souvent, les politiciens vont vraiment être très empathiques. Mais René Lévesque, lui, il répond fermement. Ah. On va entendre une de ses réponses.
Oui, puis c'était une question qui portait sur la souveraineté. Là. Il y a une électrice qui reprochait au gouvernement de prendre des décisions toujours teintées par le projet souverainiste du gouvernement.
Maintenant, quand vous dites toutes les décisions qu'on aurait prises à Québec depuis les élections, ça a toujours eu un certain rapport avec ça, comme si on s'occupait rien que de ça, là. Je pense que là, vous êtes un peu victime d'une des drogues les plus dangereuses de notre époque, qui s'appelle la propagande.
Donc, il accusait ni plus ni moins l'électrice d'être droguée.
Oui, carrément.
Droguée par la propagande.
Comme on disait tout à l'heure, c'est une réponse assez raide, assez brusque. Mais c'est ça, puis...
Ben, franche comme René Lévesque.
Oui, toute époque. Puis, dans le Devoir du 15 février 1978, un journaliste qui accuse le Parti québécois de faire de la publicité trompeuse parce que dans l'annonce de l'émission qui allait venir, on laissait entendre que René Lévesque annoncerait la date du prochain référendum dès 78. Puis finalement, dans l'émission en question, on parle d'un référendum sur l'indépendance au plus tôt en 79 et au plus tard à la fin 80. L'émission avait été reçue assez durement. Parmi les sujets de conversation, on est en 78, 2 ans après les Olympiques de 1976 de Montréal. Le stade olympique est toujours pas terminé et on a une question d'un citoyen.
Oui, sur ce sujet-là.
J'aimerais savoir si M. Lévesque s'il est intéressé à construire la couverture au stade à Montréal. Voilà, là, parce que me semble que ça sera plus le temps de faire la soeur que d'attendre plus tard, puis ça coûte à court le double du prix.
Ben, le double du prix, prions le bon Dieu que ça arrive jamais. Mais de toute façon, pour répondre directement à votre question, il y a 3 semaines. À peu près, le 10 février, on a annoncé que très, très, très probablement, il va falloir non seulement compléter le stade, bien sûr, mais qui a déjà coûté entre 900 millions et 1 milliard, le stade tout seul, mais aussi qu'il va falloir le faire sans doute selon la conception, là, la façon dont il a été inventé au début. Bon. Mais ça coûterait 70 millions rien que pour ça, 70 millions. Et avec le genre d'urgence économique dans laquelle on est obligé de vivre encore cette année, et aussi avec le fait que ce genre de travaux-là, ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Ben, on a décidé de reporter ce parachèvement-là au moins d'un an, peut-être 2 ans.
Oui, donc on va reporter ça d'un an ou deux.
Un an, peut-être 2.
Oui, c'est ça le sujet. Il ne semblait pas trop stressé avec ce dossier-là qui va coller longtemps à l'actualité.
Ils vont finir par le construire, le maudit stade.
Oui, en fait, la toile va déchirer de nombreuses fois.
Ah, oui.
Bâtiment très bien pensé. On a ensuite une autre question sur la protection du territoire agricole. Donc, c'est un enjeu qui était abordé de front à l'époque. Et c'est intéressant d'entendre M. Lévesque qui dit qu'il faut préserver nos terres, il n'en reste pas beaucoup. Dès cette époque-là, aujourd'hui, c'est encore un enjeu, une crainte de perdre leurs terres au profit de l'urbanisation. Donc,
ça a quand même freiné le développement immobilier à certains endroits. Ouais. Les terres agricoles, mais pas toujours, hein, quand même.
Quand on roule sur la 20, on voit de chaque côté, en Montérégie, des développements immobiliers qui vont très loin.
Dirais-tu qu'on voit l'échec de la loi?
Disons qu'on voit que la banlieue prend de l'expansion constamment.
OK, oui, on va y aller sur les faits. OK, on va écouter cette réponse.
Cette année, là, avant la fin de l'année, il va y avoir les lois et les règlements nécessaires pour la protection des terres agricoles. Qu'on protège nos bonnes terres pendant qu'il en reste encore, là, au lieu de les laisser manger indéfiniment par les spéculateurs, par les développements domiciliaires, surtout autour des grandes villes. Alors, je trouve que pour un an et demi, ben, c'est déjà pas si mal, enfin. Mais comme je disais au début, il n'y a pas de recette magique. Il faut piocher sans arrêt pour améliorer les conditions.
Oui, puis René Lévesque, au passage, dit que pour un an et demi, il est fier du bilan. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs réformes, plusieurs adoptions de lois clés, là, que ce soit loi 101, protection de territoire agricole. Puis il parlait aussi dans cette émission-là de la régie de l'assurance automobile du Québec, qui était très controversée à l'époque. Là. Tous les avocats étaient contre.
Oui, puis il expliquait comment ça fonctionnait, donc
c'est
assez intéressant.
Hey, vraiment dans le détail, là. Hein,
on a l'impression aujourd'hui que ça a toujours été là, mais c'est quand même assez récent quand on y pense. Puis aussi, dans une autre émission qu'on n'a pas accès, malheureusement, René Lévesque parlait de l'abolition des clubs privés de chasse et de pêche.
Ah ben
donc, un autre dossier important.
Le déclubage.
Oui, il y a vraiment de tout. Il y a des évocations, par exemple, à la série télévisée Duplessis qui vient de passer à la télévision. Et il parle même des loups marins de Brigitte Bardot.
Oui.
Donc, René Lévesque est un Gaspésien d'origine. Ne parlait pas de phoque, mais de loup marin comme on faisait à l'ancienne.
Ah oui, c'est vrai.
Oui.
Mais il faut le dire aux gens, là, c'est disponible sur YouTube, puis je vais mettre sur la page de l'émission le lien direct, parce qu'il faut écouter ça, c'est vraiment intéressant pour les passionnés de politique, évidemment.
Puis en terminant, c'est ça, on a une petite question qui semblait vraiment plantée. demander, parce qu'habituellement, on voyait la personne de près qui posait la question au premier ministre, mais là, elle a toute faim. Il y a une question, on voit la télévision au loin, mais on
a l'air d'être une jeune fille.
Oui, mais filmée de très loin, ça semble vraiment planté. Comme de raison, la question est la suivante. Aimez-vous ça être premier ministre, M. Lévesque? Donc, on va écouter la réponse du premier ministre de l'époque.
Aimez-vous ça être premier ministre?
Ben, écoutez, vous vous attendez pas à ce que vous racontez tous mes états d'âme, là, j'espère, mais je dirais ceci, au fond, comme dans toutes les occupations, là, ça dépend des jours ou des semaines. Il y a des hauts, puis il y a des bas. Et pour moi, mais chacun son tempérament, pour moi, je dois avoir une sorte de tempérament d'Américain, dans un certain sens, c'est que j'aime ça quand on fait avancer des projets utiles, autant que possible, des fois, même des projets nécessaires, et que ça se réalise.
Ce que je trouve intéressant dans ces émissions-là auxquelles on a accès, c'est que c'est le René Lévesque joyeux d'avant les grandes blessures. D'abord le 20 mai 80, puis ensuite, évidemment, le rapatriement de la Constitution et peut-être la découverte qu'un de ses ministres avait des rapports avec la GRC, Claude Morin. En tout cas, c'est un René Lévesque de bonne humeur, content, très fier de son bilan. Puis évidemment, après, ça va être plus difficile. Je dirais pas qu'on va connaître l'homme brisé après, parce que je sais que certains des proches de René Lévesque, notamment Martine Tremblay, estiment que c'est une thèse qui a été exagérée, notamment par Pierre Godin, qui est un biographe de René Lévesque. Mais c'est vraiment...
C'est un homme d'action à ce moment-là, en 78. Et un point intéressant aussi, c'est qu'on est... C'est la même année que les débats au Salon Vert, l'ancienne couleur du Salon Bleu, vont être télédiffusés. Donc, ces émissions-là, ça annonçait un peu ce qui allait arriver par la suite.
Ah oui.
J'ai l'impression que ça venait un peu combler un manque qui va être comblé de lui-même par la suite grâce à la période des questions qui va être diffusée à l'initiative du gouvernement Lévesque, qui va faire entrer les caméras, qui va faire repeindre le Salon Vert en bleu pour justement que les couleurs soient plus belles à l'écran. Donc, c'est intéressant.
L'usage de la télévision comme mode de transmission démocratique, peut-être. Ben là, c'est vrai que c'est de la propagande du Parti québécois, mais...
Oui, c'est ça. Mais ouais. En même temps, il y a un côté, il y a un vernis gouvernemental où ouais. On explique les grandes décisions de l'État.
Ouais.
Ça annonce un peu... est-ce qu'il y a des équivalents aujourd'hui à ça?
Non, les discours sont courts, donc je vois pas.
Effectivement,
c'est TikTok, c'est 3 minutes, c'est ouais. 3 secondes, c'est ou Instagram, c'est très peu. On n'est pas dans l'explication, en tout cas, très détaillée que René Lévesque procure aux citoyens à cette époque-là.
Oui.
On a reconnu la musique révolutionnaire américaine. Dave, c'est parce que tu veux nous parler d'un livre d'un ami de l'émission, Gaston Deschênes, historien ici, qui a été historien, quoi, 30 ans ici à l'Assemblée nationale. Et il vient de faire paraître Un pays rebelle. C'est en lien avec l'esprit révolutionnaire américain. C'est pour ça qu'on a fait jouer la petite musique.
Tout à fait, c'est ça. C'est un peu un lien méconnu de l'histoire du Québec avec les Américains. Donc, c'est un ouvrage qui est paru au Septentrion il y a quelques semaines. Un pays rebelle, la Côte du Sud et la guerre de l'indépendance américaine. Dans le fond, dans cet ouvrage-là, Gaston Deschênes nous parle de la Côte du Sud. La Côte du Sud, c'est cette région-là qui va de Beaumont à Kamouraska. À l'époque, il y avait 14 paroisses. C'est une région sur la rive sud de Québec, un peu en aval de la capitale. Et à l'époque de la Révolution américaine, en 1775-76, on y retrouvait le sixième de la population de ce qu'on appelait la province de Québec à l'époque.
Mm-hmm.
Gaston Deschênes, qui est natif de Saint-Jean-Port-Joli, il a consacré sa carrière à cette région-là. C'est un pays de légende. C'est la région qui nous a donné, par exemple, la sorcière, la Corriveau.
Oui.
Le pays des anciens Canadiens, dont Philippe Aubert de Gaspé, le romancier. Donc,
oui.
C'est une région importante. Et ce que nous explique Gaston Deschênes dans cet ouvrage-là, c'est que c'est une région qui a été très militante en faveur des rebelles lors de l'invasion du Canada par les Américains en 1775. C'est un fait qui est un peu oublié, c'est qu'en 1775, les Américains n'ont pas encore déclaré leur indépendance, mais ils sont en état de rébellion et ils envoient 2 armées pour envahir le Canada. Donc, il y a une armée qui s'empare de Montréal par le sud en passant par le lac Champlain et une autre armée qui passe par les forêts du Maine et qui descend la rivière Chaudière, qui traverse la Beauce jusqu'à Québec. Donc, ces 2 armées-là se rejoignent devant Québec. Et toute
la conquête avait ici, la conquête anglaise de la Nouvelle-France, ça datait de 1759. Là.
Ça faisait à peine 15 ans.
C'est donc, ça.
Très frais à la mémoire. Il y a des gens qui ont vécu les deux, donc la guerre-là et cette deuxième guerre-là. Et avant d'envahir le Canada, les Américains avaient distribué des proclamations, des adresses aux habitants leur disant « Envoyez-nous des députés à Philadelphie au Congrès. Comme ça, vous allez être représenté au même titre que les 13 colonies en révolte. Et évidemment, ce qui arrive au Canada, c'est qu'il n'y avait pas de parlement.
Donc, le Québec aurait pu être une sorte d'État américain.
Oui, en fait...
S'il y avait eu des institutions.
C'est ça.
Ben, s'il avait eu des institutions...
Ce que Gaston Deschênes m'expliquait en entrevue, c'est que ce qui a manqué au Québec de l'époque, c'est un parlement où la volonté populaire, l'opinion publique aurait pu être canalisée. Tandis que là, on a des citoyens un peu dispersés un peu partout. Il n'y a pas de leader non plus. Il n'y a pas de Papineau à cette époque-là qui aurait pu canaliser le mouvement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la population, on a beaucoup parlé de leur neutralité en 1775, mais en réalité, quand on regarde les rapports de l'époque, notamment le rapport Babbie, qui a été fait par les Britanniques après le départ des Américains pour vérifier la loyauté des habitants. Donc, on a vu à ce moment-là que la plupart des Canadiens avaient été très sympathiques aux rebelles.
Ah oui?
Donc, c'est vraiment... C'est pas seulement la Côte-du-Sud, c'est pas seulement la Beauce, c'est vraiment l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent qui était sympathique aux rebelles. Et d'ailleurs, on va compter jusqu'à 500 volontaires canadiens qui vont prendre les armes aux côtés des Américains. Et sur ceux-là, donc, il y avait à peu près une centaine de miliciens de la Côte-du-Sud, donc qui sont allés combattre pour les Américains. Et dans un des deux régiments que le Congrès de Philadelphie va mettre en place au Canada. Donc, normalement, le Canada aurait dû devenir le 14e État américain.
Mm-hmm.
Il fallait vers ça. Tout ce qui restait aux Britanniques en 1775, c'est la vieille ville de Québec, les remparts. Donc, tout le reste était contrôlé par les Américains. Et,
c'est fascinant de savoir ça, ben oui.
Ben c'est ça, on est vraiment passé à un cheveu de devenir américain à ce moment-là. Surtout que les troupes de l'armée continentale vont prendre d'assaut la ville le 31 décembre 1775 pendant une tempête de neige pour surprendre les Britanniques. Et ils vont se rendre jusqu'en Basseville, d'ailleurs.
Ben oui.
Bénédicte Arnold, il va marcher, il va longer ce qui est devenu la rue Saint-Paul.
Il y a une énorme plaque, d'ailleurs, oui. sur le boulevard Champlain.
Ben, en fait, il attaquait des deux côtés. Il y avait une armée qui longeait le Cap Diamant du côté du fleuve et de l'autre côté qui passait par la Basseville pour se rejoindre au pied de la côte de la montagne. Et le projet, c'était ensuite de monter de force la côte de la montagne et s'emparer du reste de la ville. Et donc, ça n'a pas fonctionné, mais c'est passé très près. Et les Britanniques vont envoyer ensuite des renforts au printemps 76 et les Américains vont se replier au sud de la frontière. Et donc, Gaston Deschênes raconte vraiment le parcours de différents personnages de la Côte-du-Sud, dont Clément Gosselin, qui était un entrepreneur, un maître charpentier, qui a pris parti pour la Révolution. Et ce qu'il explique bien, Gaston Deschênes, c'est que c'était pas des gens, des journaliers, des vagabonds qui prenaient part à la Révolution. C'était vraiment des gens bien établis qui auraient très bien pu faire autre chose, attendre que ça passe. Mais Clément Gosselin, lui, par contre, il va vraiment tout sacrifier au profit de la cause. Et quand les Américains vont se replier au sud de la frontière, les autorités britanniques vont être assez clémentes quand même, vont permettre à tout le monde de reprendre leurs fonctions. D'ailleurs, ils n'avaient pas vraiment le choix puisque la colonie est francophone.
Trop nombreux, il y avait trop de Canadiens.
Ils ont une répression comme ils ont fait plus tard à l'époque des patriotes. Donc, mais Clément Gosselin aurait pu réintégrer son foyer comme c'est. Ses camarades vont faire, mais lui, il va décider de continuer le combat.
Il va être un peu errant, hein, c'est ça?
Oui, au début, il va mener des missions d'espionnage pour le compte de Washington, donc le général Washington. Il va faire des allers-retours et par la suite, il va réintégrer son régiment comme capitaine d'infanterie. Donc, c'est ça, c'est vraiment un ouvrage intéressant qui nous replonge dans l'époque, cette époque-là méconnue.
Donc, Un pays rebelle de Gaston Deschênes.
Oui.
Aux éditions Septentrion. Merci beaucoup, Dave.
Merci.
Et on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire.